Effectivement, on a vu plusieurs siècles, très rapidement, d'une philosophie et d'une foi qui se cherche un petit peu, qui cherche un modus vivendi. Avec saint Thomas, va se poser une véritable harmonie de la foi et de la raison. L'objet du passage dont on va parler, qui sont les numéros 43 à 48, traite de l'harmonie entre la foi et la raison à l'école de saint Thomas. Alors, la foi... On va la définir un petit peu tout à l'heure, mais disons le drame dont veut parler Jean-Paul II dans son encyclique ici, c'est le drame actuel de la raison et de la foi, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'apprendre des choses sur saint Thomas, mais l'idée est de voir comment saint Thomas est une solution à un problème présent. Alors le drame de la séparation entre la raison et la foi, et donc de la philosophie qui est l'œuvre de la raison cherchant la vérité par ses seules forces, qui divorce de la théologie, qui est l'œuvre de la raison croyante, cherchant à approfondir la vérité reçue dans la foi, eh bien ce divorce, finalement, est de deux côtés, et nuit à chacun. Là, l'idée un peu fondamentale de Jean-Paul II. C'est-à-dire qu'à la fois, la foi a tendance à se séparer de la philosophie a tendance à se séparer de la foi, et finalement, les deux en sont victimes. Alors saint Thomas est important parce que c'est lui qui a su au XIIIe siècle penser cette harmonie paisible entre la foi et la raison et poser un certain nombre de principes fondamentaux qu'on va voir ensemble. Donc première grande partie, si vous voulez, l'harmonie entre la foi et la raison, et on va voir un petit peu les trois grands principes que pose saint Thomas. Le premier grand principe, c'est l'importance de les donner à la nature. Alors souvent, on accuse l'Église de faire du biologisme, c'est-à-dire de trop s'attacher à la nature. Et les réflexions qu'on a eues cet après-midi montrent justement qu'on a parfois du mal à comprendre ce qu'on met sous le mot « nature ». Quand on a parlé, par exemple, de la sexualité, eh bien voilà, l'homme a une nature humaine, une nature raisonnable, rationnelle. Il est doué de langage, ce que n'ont pas les animaux au même titre que l'homme. Et par conséquent, c'est un être de relation et de don. Bon. Dès lors qu'on a compris que l'homme, par sa nature, est un être de relation et de don, qu'il a une nature humaine, rationnelle, raisonnable, eh bien, on peut comprendre assez facilement que cette nature raisonnable s'incarne, si on peut dire, dans une masculinité ou dans une féminité. Et par conséquent, il appartient à la nature de l'homme que, dans sa masculinité, il exprime le don de sa personne. Alors, il est assez facile aussi de comprendre que le don radical de soi-même, dans la sexualité, est un don qui est le don de sa masculinité, et comme la masculinité est relative à la féminité, il est assez facile de comprendre que le don radical de sa masculinité appelle l'accueil de ce don par la féminité. Bon. De telle sorte qu'en disant que l'homosexualité est contre nature, l'Église ne parle pas de biologie, elle ne dit pas... c'est contre nature parce que, voyez bien, les petits oiseaux, ils vont entre mâles et femelles, les vers de terre vont entre mâles et femelles, les escargots, pas du tout d'ailleurs. Donc, c'est pas du tout la question. Pour l'Église, la nature, c'est la nature raisonnable. Bon. Donc, ayant un petit peu défini cette question de nature, donc toujours dans l'importance donnée à la nature, le grand principe que va poser saint Thomas, c'est que la grâce suppose la nature. La grâce suppose la nature, cela a une double signification. La première, c'est que Dieu agit en premier par la nature, et non pas d'abord par des moyens surnaturels. Bien sûr, il a le droit d'agir par des moyens surnaturels, mais l'étudiant, par exemple, qui a des examens à réviser, doit apprendre ses leçons, et non pas penser que s'il dit son chapelet, eh bien, il aura la science infuse. Je vois quelques-uns... Deuxième idée, c'est que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce ne détruit pas la nature, c'est-à-dire que celui qui a un mauvais caractère doit prendre les moyens pour se corriger, des moyens humains pour se corriger, et les grâces qu'il peut recevoir à l'occasion, par exemple, d'une confession, ne vont pas miraculeusement transformer son caractère. Au-delà de cet aspect qui peut paraître un petit peu anecdotique, voire humoristique, il y a deux idées importantes. La première, c'est que la nature est une chose bonne en soi. La nature n'est pas mauvaise. Bon, la nature est bonne. Elle reflète une sagesse créatrice, qui est la sagesse créatrice de Dieu. La seconde chose, c'est que Dieu est connaissable à partir de la nature parce qu'elle est sa création. Donc, comme disait le frère Joseph tout à l'heure, ça a été la grande œuvre des philosophes grecs de l'Antiquité de montrer quelle est la connaissance que la raison peut atteindre, peut espérer de Dieu à partir de sa création, sachant que Dieu est la cause de sa création. Donc premier principe, l'importance donnée à la nature. Deuxième grand principe de cette harmonie entre la foi et la raison, c'est que la foi suppose la raison. Alors ici, on va répondre un petit peu à la question qui a été posée tout à l'heure et sur la question de la rationalité de la foi, et qui est une bonne question. L'acte de foi, c'est une adhésion de l'intelligence. Une adhésion de l'intelligence, mais non pas d'abord une soumission de la volonté. C'est d'abord une adhésion de l'intelligence. Dans d'autres religions, je pense à l'islam, l'acte de foi est une adhésion de la volonté, est une soumission de la volonté. Pour un chrétien, la foi est une adhésion de l'intelligence, mais une adhésion qui est motivée non pas par l'évidence de la vérité, sinon on serait dans la science ou même peut-être dans la vision béatifique. C'est une adhésion qui est motivée, donc non pas par l'évidence de la vérité, mais qui est motivée par le fait que la volonté voit que cette adhésion est bonne. Ce qui montre que cette adhésion est bonne, c'est bien sûr la raison, mais la raison ne lui montre pas d'évidence, sans quoi, encore une fois, ce ne serait plus de la foi, ce serait de la science. La volonté donc ne peut voir que cette adhésion est bonne que parce que la raison lui montre que c'est une bonne chose, de telle sorte que l'intelligence va adhérer librement et sous la motion de la volonté éclairée par la raison à des vérités qu'elle va tenir comme étant reçues par Dieu. De telle sorte que la foi n'est pas une soumission servile, n'est pas quelque chose d'irrationnel qui irait contre la raison, mais c'est une obéissance libre à ce que, par notre intelligence, donc, nous reconnaissons comme venant très certainement de Dieu. Les rationalistes, eux, considèrent que la foi est irrationnelle. Et par conséquent, il y a une tentation à la fois du côté des rationalistes et de certains philosophes de rejeter la foi dans l'irrationnel, mais il y a aussi une certaine tentation de certains croyants, même chez les chrétiens, à vouloir que la foi soit une sorte de conclusion logique de la raison, ou bien de rejeter simplement la raison comme étant incapable d'atteindre des vérités de foi. Troisième grand principe, la théologie suppose la philosophie. Alors là, Jean-Paul II fait une distinction qui est très intéressante pour un philosophe entre un système philosophique et la pensée philosophique. Un système philosophique, c'est un ensemble d'idées qui sont organiquement liées entre elles et qui peuvent être différentes d'un auteur à l'autre. La pensée philosophique, c'est ce que tout homme, par son intelligence, peut espérer faire s'il philosophe, et sans être forcément lié à un système particulier. Donc la théologie suppose la philosophie, mais non pas un système philosophique particulier. La théologie suppose, au fond, un exercice de l'intelligence qui recherche la vérité par ses seules forces, comme on a défini tout à l'heure, en s'appuyant sur la connaissance assez modeste que lui donne les sens. Et Jean-Paul II dit ceci, « De même que la grâce suppose la nature et la porte à son accomplissement, ainsi la foi suppose et perfectionne la raison. » Si la théologie suppose la philosophie, c'est que tous les concepts au moyen desquels la théologie va rendre compte de la foi sont d'abord des concepts philosophiques. Ça, c'est une vérité extrêmement importante, c'est que les concepts qu'utilise la théologie ne tombent pas du ciel. Ce sont tous d'abord des concepts philosophiques, que l'on pense par exemple à la notion de substance pour parler de l'Eucharistie et de la transsubstantiation, que l'on pense à la notion de liberté pour parler du mariage, de la notion de personne pour parler de la Trinité, toute la théologie est tissée par des concepts philosophiques. Cet accomplissement de la raison est nécessaire à la foi pour qu'elle soit un acte libre, pour qu'elle ne soit pas quelque chose d'irrationnel, et donc pour qu'elle soit un acte authentiquement humain. Mais en même temps, la foi qui recherche l'intelligence donne à celle-ci, donc à l'intelligence, des lumières qui l'élèvent. En effet, dit Jean-Paul II, la foi est en quelque sorte un exercice de la pensée. La raison de l'homme n'est ni anéantie ni humiliée lorsqu'elle donne son assentiment au contenu de la foi. Celui-ci est toujours atteint par un choix libre et conscient. Donc voilà pour ce qu'on pourrait définir comme étant la manière dont saint Thomas pense l'harmonie entre la foi et la raison. Il ne s'agit pas de laisser la raison au seuil et de dire « hop, après c'est seulement la foi et la théologie », puisque toute la théologie est tissée de philosophie, et qu'en réalité, la philosophie atteint un certain nombre de vérités que la théologie va éclairer de manière supérieure, de telle sorte que la raison n'est pas humiliée ni anéantie par la foi et la théologie. Deuxième grand point, prendre saint Thomas comme maître. Alors, d'abord, disons que l'Église nous demande de prendre saint Thomas comme maître dans l'usage que la foi fait de la philosophie. Qu'est-ce que c'est qu'un maître ? Un maître, ce n'est pas quelqu'un dont on adopte aveuglément les conclusions, mais c'est quelqu'un à qui on emprunte les principes et la méthode. Donc ce qu'il faut retenir chez saint Thomas, ce n'est pas d'abord tout un ensemble de conclusions. Saint Thomas a pu se tromper dans ses conclusions, mais de même qu'Aristote a pu se tromper dans ses conclusions, mais il ne s'est pas trompé dans ses principes et sa méthode, et c'est la raison pour laquelle l'Église nous demande de le prendre comme maître. Parmi les principes, par exemple, il y a l'idée que notre intelligence est capable d'une connaissance vraie du réel. Vrai, ça veut dire conforme au réel. La notion de vérité, qu'il faut peut-être un moment définir, c'est une conformité au réel, et notre intelligence en est capable. Notre intelligence peut dépasser la simple description de notre subjectivité, au-delà de ce qu'on pourrait appeler, pour les initiés, la phénoménologie. La philosophie peut aussi dépasser la philosophie analytique, c'est-à-dire la philosophie qui n'analyserait que le langage, par exemple. Or, beaucoup de philosophies s'écartent des principes de saint Thomas, ce qui fait qu'elles peuvent bien apporter des lumières sur tel ou tel point de la foi ou même de la pensée, mais celui qui prendrait ces philosophes comme maîtres s'écarterait tôt ou tard, fatalement, de la vraie foi. L'idée, c'est qu'on prend une boussole, on prend un azimut vers le nord, si on dévie d'un degré, au bout de 10 mètres, on ne sera pas très loin de la route, de la bonne route, mais au bout de 500 km, on sera assez loin. Du coup, il faut être d'autant plus vigilant que ces philosophes sont parfois soutenus par de très bons sentiments, ce sont parfois même de très bons chrétiens, avec de très bonnes intentions. Saint Thomas est reconnu par l'Église pour des qualités assez essentielles, que je vais nommer rapidement. D'abord, la clarté. Innocent VI dit ceci. La doctrine de saint Thomas possède plus que toutes les autres, sauf la canonique, la propriété des termes, la forme pour le dire et la vérité des sentences. Innocent VI lui reconnaît encore la sûreté. Innocent VI dit ceci. Jamais ne s'est écarté de la vérité celui qui l'a professé, cette doctrine de saint Thomas, et toujours ont été suspects d'erreur ceux qui l'ont combattu. Saint Pie X dit de la même manière, « S'éloigner de saint Thomas ne va jamais sans détriment grave. » On a un peu envie de dire à bon entendeur salut, mais enfin, les philosophes sont quand même assez prévenus. On lui reconnaît encore l'efficacité. Jean 22, qui a canonisé saint Thomas, dit ceci, « On apprend plus avec saint Thomas en une année qu'avec tous les autres saints ensemble pendant toute la vie. » Paul VI va encore plus loin. L'Église couvre de son autorité la doctrine de saint Thomas et s'en sert comme d'un instrument de choix, de telle sorte que, autant et plus que ses autres grands docteurs, il prolonge en quelque sorte son magistère. Donc il est intéressant de se demander comment saint Thomas use de la philosophie pour essayer de faire pareil, essentiellement, pour commencer, en distinguant l'argument d'autorité, qui est un argument proprement théologique et qui consiste à dire « un tel auteur a dit cela, donc je vous demande d'y adhérer », et l'autorité de l'argument, qui est à la fois théologique et philosophique. C'est-à-dire qu'en théologie, on va utiliser finalement deux sortes d'arguments. L'argument d'autorité, qui consiste à s'appuyer sur un auteur, et l'autorité de l'argument, qui consiste à s'appuyer simplement sur la raison. Alors saint Thomas a pris comme maître en philosophie Aristote. Avec lui, il a su, dit Jean-Paul II, concilier le caractère séculier du monde, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui le caractère un peu laïque du monde, l'autonomie du monde, on va dire, et le caractère radical de l'Évangile, échappant à cette tendance contre nature qui nie le monde et ses valeurs, sans pour autant manquer aux suprêmes et inflexibles exigences de l'ordre surnaturel. Donc il s'agit ni de s'enfermer dans une foi qui serait un ghetto, ni de s'enfermer dans une philosophie fermée à l'ordre surnaturel. On évite de cette façon le fidéisme, finalement, et le rationalisme. Il en va de saint Thomas par rapport à Aristote comme de nous-mêmes avec saint Thomas. Ce ne sont pas, comme je le disais, ses conclusions d'abord, mais ses principes et sa méthode auxquels il faut s'attacher. Parfois même, saint Thomas nous en donne l'exemple, il en appelle à l'intention de son maître, Aristote ou Augustin, contre sa lettre, en disant « oui, c'est vrai, saint Augustin a dit ceci, Aristote a dit ceci », mais leur intention était de dire le contraire de ce qu'ils voulaient dire, puisque en m'appuyant sur leurs principes, eh bien, je peux aboutir à des conclusions qui sont différentes. Bon. Et souvent, d'ailleurs, à la lumière de la foi, d'où l'intérêt de la foi pour le philosophe. Donc saint Thomas nous apprend aussi la liberté intellectuelle, mais liberté que nous ne pouvons pas avoir si nous partons sur de mauvais principes. Troisième idée, c'est que la philosophie d'Aristote n'est pas pour autant canonisée par saint Thomas, même s'il l'a pris pour maître, mais en même temps, toutes les philosophies ne se valent pas. Alors, pour expliquer que toutes les philosophies ne se valent pas, on va expliquer ça en trois points. D'abord, le danger d'une foi privée de raison. La foi exige la coopération de l'intelligence, non seulement pour comprendre les vérités de la foi, mais aussi pour que la sagesse divine puisse féconder et surnaturaliser la sagesse humaine. Autrement dit, la sagesse divine va pouvoir donner toute sa fécondité à la sagesse humaine, mais à condition évidemment que la sagesse humaine soit constituée. Du point de vue de la foi, donc, la philosophie n'est pas un luxe, parce que la crise de la philosophie constitue un obstacle assez puissant à la découverte de la foi. Saint Jean-Paul II dit ceci, « La raison privée de l'apport de la révélation a pris des sentiers latéraux qui risquent de lui faire perdre de vue son but final. La foi privée de la raison, dit Jean-Paul II, a mis l'accent sur le sentiment et l'expérience en courant le risque de ne plus être une proposition universelle. » Autrement dit, si la foi ne réfléchit plus, si la foi se contente de tenir un certain nombre de vérités, eh bien, dit Jean-Paul II, elle va mettre l'accent sur le sentiment et l'expérience, donc elle va devenir du sentimentalisme et du subjectivisme, et en plus, elle ne va plus être une proposition universelle, puisque par conséquent, évidemment, ce que je vais dire du fait de ma foi va être valable pour moi, mais pas pour celui qui n'a pas la foi. Donc d'une certaine manière, on pourrait rentrer dans une sorte de relativisme. C'est pourquoi saint Thomas propose une philosophie réaliste, c'est-à-dire qui prétend que le réel est connaissable par la raison. Saint Thomas nous permet ainsi d'articuler trois sagesses. On a parlé ce matin de la sagesse de Dieu. Eh bien, cette sagesse de Dieu s'articule selon trois sagesses. D'abord, le don de sagesse, qui est un don du Saint-Esprit, par lequel nous sommes sensibles à ce qu'on appelle les motions du Saint-Esprit. Par le don de sagesse, nous connaissons par connaturalité et nous pouvons formuler un jugement droit à partir de la vérité de la foi elle-même. Et puis deux sagesses complémentaires, la sagesse théologique et la sagesse philosophique. La sagesse philosophique, dit Jean-Paul II, se fonde sur la capacité de l'intelligence à rechercher la vérité à l'intérieur des limites qui lui sont connaturelles. Et la sagesse théologique se fonde sur la révélation et examine le contenu de la foi en atteignant le mystère même de Dieu. Donc on a trois sagesses qui s'articulent et qui sont en quelque sorte la sagesse de Dieu parce que, puisque la nature que connaît la philosophie est créée par Dieu, la sagesse que nous connaissons dans la nature est en quelque sorte une sagesse divine. Ensuite, deuxième grande ligne de force de la philosophie de saint Thomas, c'est que sa philosophie est vraiment celle de l'être et non de l'apparaître. Cette perspective de saint Thomas permet d'éviter un écueil par rapport à notre intelligence de la foi, qui est de s'enfermer dans une simple description de notre subjectivité croyante. Ça, c'est pour le danger d'une foi privée de raison. Le danger d'une raison privée de la foi. Le danger d'une raison privée de la foi, ce serait de faire de la théologie révélée un prolongement exigé par la raison elle-même, comme si la philosophie devait finalement approuver la foi, comme si la philosophie ne devait, d'une manière logique et nécessaire, arriver à la foi chrétienne. Il résulte que le chrétien a besoin aujourd'hui plus que jamais de former son intelligence philosophique, je prêche un peu pour ma boutique, sous peine de transformer, comme je disais tout à l'heure, sa foi en ghetto et de se rendre incapable de dialoguer avec le monde. Or, le dialogue avec le monde est le préalable indispensable à l'évangélisation, tant les idéologies dominantes comme le relativisme, dont on a abondamment parlé avec raison, sont puissantes. La philosophie est là pour montrer non pas que la foi est nécessaire parce que ce ne serait plus de la foi, mais que la foi est possible, qu'elle ne détruit pas la sagesse humaine, mais qu'au contraire, elle l'élève. Ensuite, il faut en tirer que nous vivons souvent notre religion avant tout comme une morale, alors que la foi est d'abord dans l'intelligence. Si elle a une signification morale, c'est d'abord parce qu'elle apporte à l'intelligence des lumières sur la vérité et donc sur le bien. Dans une vision un peu volontariste de la religion, comme dans l'islam par exemple, eh bien, la parole divine s'adressant non pas à l'intelligence mais à la volonté, au fond on est dans une idée que la foi se coupe du monde, la foi se coupe de la connaissance du monde. Dans une vision authentiquement chrétienne, la parole divine s'adresse donc à l'intelligence. Pascal dirait au cœur. Le cœur, c'est l'intelligence de l'homme de bonne volonté. Le cœur, c'est l'intelligence de l'homme, comme dit Pascal, l'intelligence sensible à Dieu. C'est-à-dire, c'est l'intelligence qui étant mue par l'amour, est prête à recevoir la révélation divine. Elle éclaire donc la foi, l'intelligence de celui qui veut bien s'ouvrir à la parole divine, de telle sorte qu'à ce moment-là, la foi montre à l'intelligence des vérités qu'elle ne pourrait pas connaître par sa seule force, comme par exemple la Trinité, mais aussi elle lui montre plus clairement des vérités qu'elle possède déjà ou qu'elle pourrait posséder, comme par exemple la notion de dignité humaine. Alors, Jean-Paul II termine ce passage, et je vais terminer avec lui, en montrant que le rationalisme, c'est-à-dire le fait que la raison rejette la foi, finalement s'est transformé en scepticisme puis en nihilisme. Alors expliquons rapidement cela. Le rationalisme prétend que tout peut être expliqué par la raison. Ce qui lui échappe, et donc qu'elle va rejeter, ce n'est pas seulement le mystère de la foi, mais c'est simplement le mystère de l'homme, de son existence, de sa mort, de sa liberté, bref, tous les mystères de la personne humaine. La raison du rationaliste va alors rejeter dans l'inconnaissable toutes ces questions et va se replier, dit Jean-Paul II, en une raison fonctionnelle, c'est-à-dire une raison utilitariste, qui finit par prétendre que finalement il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, auxquelles il ne faut même pas chercher à répondre, et dont finalement la réponse est indifférente. C'est ce qu'on appelle, disons, le scepticisme, on ne peut rien connaître, ou le pragmatisme, qui prétend qu'une question n'a d'intérêt que si elle a des implications pratiques. Privé de vérité, l'homme est livré à l'absurde et à la peur. L'homme, par conséquent, dit Jean-Paul II, vit davantage dans la peur. Il craint que ses productions, pas toutes naturellement, mais quelques-unes et précisément celles qui contiennent une part spéciale de son génie et de sa créativité, puissent être détournées radicalement contre lui-même. En réaction à cette absurdité, la pensée contemporaine produit, notamment avec Nietzsche, le nihilisme. C'est-à-dire l'idée que, puisque le monde n'a pas de sens, il n'a que celui que je lui donne. Et la vie, au fond, de chacun n'est que la tentative d'imposer son propre sens, sa propre perspective à tous les autres au moyen de la force. Au final, il n'y a même plus de philosophie, plus de sagesse commune aux hommes, et donc plus de vérité. Et comme on a toujours défini la vérité comme une conformité au réel, s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de réel non plus. Celui-ci, le réel, finit par se réduire à la perspective subjective de chacun. C'est la pensée de Nietzsche et c'est aussi la pensée de Lacan, qui est un grand psychanalyste. Conclusion, la philosophie de saint Thomas est précisément celle qui offre les principes et la méthode de la philosophie dont la foi a besoin, qui procède selon ses méthodes et ses règles, c'est-à-dire selon les méthodes et les règles de la philosophie. Il s'agit donc d'équilibrer la raison croyante et la foi raisonnable, sans ramener la foi à de la philosophie, et sans prétendre trouver la foi nécessairement au bout de la philosophie, comme si la foi demandait à la philosophie de capituler. Saint Thomas a donc une nouveauté peut-être plus grande aujourd'hui, parce qu'il répond à une exigence qui dépasse les frontières du christianisme et qui est une exigence de vérité. Je vous remercie.